Et bienvenue pour la première de ces six cours sur l'américanisme et l'architecture en Russie, pensée présentée dans un champ assez large qui va de l'architecture au design industriel, en passant par l'urbanisme, peut-être par le paysage, en esquivant pas la politique, la littérature, peut-être le cinéma aussi. Donc un propos qui, comme vous le voyez sur ce programme, se déroulera de manière diachronique du début du XIXe siècle à la fin du XXe, et peut-être même pourrait-on prolonger le propos jusqu'au début du XXIe, puisque le capitalisme sauvage de la Russie post-soviétique semble toujours marqué depuis l'effondrement en août 1991 du système soviétique par la présence de l'Amérique, symbolique, en tout cas en dépit des rodomontades de Vladimir Poutine. Plus en amont, les relations conflictuelles des deux puissances ont fortement marqué la seconde moitié du XXe siècle et je dirais aussi la première. Et c'est ce que je voudrais montrer en commençant, en inscrivant mon propos sous l'enseigne de ce collage de Roman Chislevitch de 1968, couverture de la revue Opus, qui à l'époque m'avait fortement marqué et dans lequel je continue à voir une sorte d'icône directrice. Bien longtemps avant Chislevitch, Alexis de Tocqueville, dans un passage célèbre de la démocratie en Amérique, avait, dans une certaine mesure, entrevu cet effet de miroir lorsqu'il écrivait, je cite Tocqueville, « Il y a aujourd'hui sur la Terre deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but. Ce sont les Russes et les Américains. » J'abrège, Tocqueville poursuit, « L'un a pour principal moyen d'action la liberté, l'autre la servitude. » Leur point de départ est différent, leurs voies sont diverses, néanmoins, chacun d'eux semble appelé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde. C'était très bien vu. Mais je ne m'étendrai pas et je ne développerai pas mon propos à traiter de l'ensemble du champ politique ou du champ militaire ou du champ économique dans lequel la rivalité russo-américaine s'est déployée. Je voudrais partir du domaine étroit d'une discipline, l'architecture, dans un domaine dans lequel la question de l'Amérique est discutée et centrale depuis le début du XXe siècle. On peut dire que l'américanisme a façonné l'architecture européenne de ce siècle, ainsi que beaucoup de travaux l'ont montré. Ils ont notamment mis en évidence combien Georges Duhamel avait eu raison d'intituler son récit de voyage de 1930 « Scène de la vie future », car l'Amérique, ce que l'Amérique représentait, c'était l'avenir du vieux monde. C'était un nouveau monde, et c'est ce nouveau monde que la Russie voudra imiter et recréer. La compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique pour l'hégémonie planétaire, que Tocqueville avait décrite par anticipation, s'accompagne en fait d'une forte dépendance symbolique du second grand, de l'ex-second grand, dépassé par la Chine depuis longtemps, envers le premier. Une analyse très rapide montre assez rapidement combien la fascination de la Russie tsariste et de l'URSS pour l'Amérique est importante. Le phénomène est global, durable et complexe. Le cas russe, en l'occurrence, est à la fois exceptionnel et conforme au dispositif général de l'américanisme. De quoi s'agit-il ? L'américanisme qu'on a souvent réduit à des phénomènes dont je parlerai, comme celui de la construction des sept sœurs, des sept gratte-ciels de la Moscou tardo-stalinienne à la fin des années 40 et au début des années 50. Ce phénomène est extrêmement ambigu, en fait, dans le cas russe, puisqu'américanisme et anti-américanisme ne cessent de se conjuguer et de s'opposer dès le milieu du XIXe siècle chez les écrivains, les idéologues et les hommes politiques. À l'exaltation générale des libertés civiques, des qualités de l'industrie et de la grande ville américaine font pendant les accents tolstoïens des récits critiques dont le discours extrêmement virulent et négatif tenu par Maxime Gorki à la suite de son voyage de 1906, dont je parlerai plus tard, est le type idéal. Dès lors, l'opposition entre la staticité de la civilisation européenne et le dynamisme de la culture industrielle américaine ne cesse de traverser les analyses des intellectuels écrivant sur l'Amérique, qu'ils fassent ou non le voyage eux-mêmes. Avant de devenir, après 1917, une attitude intellectuelle, une dépendance symbolique traversant tous les champs de la production, apparaît au XIXe siècle un ensemble de représentations que l'on peut dénommer américanisme, qui précède donc largement la révolution bolchévique, qui lui donnera, il est vrai, un grand coup d'accélérateur. La réflexion sur l'américanisme et l'americanizatia, c'est-à-dire l'américanisation de phénomènes distincts dont je parlerai, est condensée dans un nombre considérable d'ouvrages et de publications. J'en ai lu beaucoup, mais je n'ai pas pu tout lire et je n'y arriverai sans doute jamais. Ces publications qui portent sur l'histoire des relations politiques, diplomatiques, commerciales, du point de vue de l'histoire des développements technologiques comparés. Des travaux très stimulants, j'en parlerai peut-être, ont été publiés sur la grande presse, la littérature, le cinéma et même le jazz. En matière d'architecture, le bilan est plus maigre. Aux quelques travaux inachevés sur l'activité des constructeurs d'usines américains dans l'URSS des années 30, qui sont en train de se déployer, heureusement, ne s'ajoutent que des réflexions ponctuelles et fétichistes sur les années précédentes 1914 et parfois sur la période stalinienne. Pourtant, l'architecture est doublement présente dans le dispositif de l'américanisme russe. Elle est en premier lieu une des manifestations de l'identité urbaine américaine, si je puis dire, que les observateurs sont très prompts à décrire, mais elle est aussi dans une succession de projets théoriques, de plans de ville, de bâtiments réalisés, un prisme, un miroir ou un révélateur des latences de l'américanisme, dont elle propose une métaphore dans le gratte-ciel, comme ici, ou à d'autres moments d'ailleurs, oublié dans la maison individuelle. Et c'est ainsi que l'architecture nous servira de fil conducteur pour une analyse menée dans ce champ de la visibilité dans lequel elle s'inscrit tout autant que dans le champ de la production concrète et symbolique. Alors, comment aborder avec vous, pendant 6 séances d'une petite heure, ce corpus vaste, touffu et contradictoire de théories, d'expériences, de projets? Comment mesurer le rapport entre l'idéal et le réel? Ce domaine est foisonnant, marqué par de multiples discours et pratiques. Mon propos donc parlera, au travers de l'architecture, de la construction sociale des systèmes socio-technologiques russes, en voyant dans l'américanisme une sorte de condensé de l'urbanisation, de la modernisation et parfois aussi de la modernité. La périodisation de mon propos. Il y a aujourd'hui deux bornes à mon propos. Je partirai de la première aujourd'hui. La première borne correspond à la visite à Philadelphie en 1876 d'un groupe d'ingénieurs et de savants russes, Dmitri Mendeleïev, chimiste, Vladimir Chukov, ingénieur, dont je parlerai. La borne ultime correspondra à un voyage d'Américains à Moscou à l'occasion de l'exposition nationale américaine de 1959, qui fut le théâtre du célèbre et très bouffon dialogue, dit dialogue des cuisines, entre Nikita Khrushchev et Richard Nixon. Je m'aperçois à ce propos que le bord droit de mes images est mangé. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire ça, régler le projecteur. En tout cas, je perds un peu d'image. Entre ces deux dates, donc 76 et 59, s'échelonnent des voyages d'écrivains, d'artistes, de cinéastes, etc. L'américanisme s'inscrit ainsi dans une certaine longue durée ou à tout le moins dans une certaine continuité qui n'est en rien une simple reproduction à l'identique des mêmes attitudes. Et donc je parlerai tout d'abord aujourd'hui de la Russie comme Nouvelle Amérique avant 1914, c'est le titre d'un poème d'Alexander Bloch dont je parlerai. Je parlerai du taylorisme et de l'américanisme bolchévisé dans les années dans les années 20, essentiellement, après la Révolution. Je parlerai des diagrammes et des recherches déconstructivistes et d'autres courants de l'avant-garde et de leur rapport avec la Russie, avec l'Amérique, pardon. Je parlerai des transferts, cette fois-ci, directs. Il s'agira d'américanisation et non pas d'américanisme des technologies américaines vers la Russie, notamment au travers de l'expérience du fordisme russe. J'évoquerai évidemment la ville stalinienne et ses modèles américains, beaucoup plus complexes qu'on a l'habitude de le penser, le modèle du gratte-ciel, mais aussi des idées assez complexes sur les systèmes urbains. Et enfin, ici, deux images de l'exposition de 1959 qui nous montrent comment le mode de vie américain a été présenté à l'époque aux soviétiques comme une espèce dans une espèce de supplice de Tantale qui était puisqu'il était inaccessible et présenté, qui était censé stimuler la révolte contre le système. Alors, commençons par le début. Jusqu'en 1867, comme vous le savez, jusqu'à la vente de l'Alaska et de la Californie du Nord, la Russie est en partie une puissance américaine. Mais la perception de la politique, de la société et de la culture américaine ne se confond pas avec les objectifs que les Russes poursuivent en Alaska. Une terre qu'ils croient très longtemps, jusqu'aux explorations de Bering, continue avec la Sibérie d'ailleurs. Ils pensent comme une continuité de la Sibérie. Les relations avec les savants américains, tout d'abord, se mettent en place à partir du milieu du XVIIIe siècle. En dépit de la triple hégémonie française, allemande et britannique, culturelle, technologique, qui restera la règle, malgré tout, jusqu'à la Révolution. Je ne voudrais pas forcer mon propos et vous faire croire que l'Amérique a été le seul horizon que les Russes regardaient. C'était les grandes puissances européennes qui les intéressaient tout d'abord. Et les Russes, de leur côté, avaient déjà une politique américaine. Lors de la guerre d'indépendance, Catherine II avait refusé de venir au secours des Britanniques. Et dès 1781, le Congrès déléguera de son côté un envoyé à Saint-Pétersbourg pour établir des relations avec l'Empire. Il ne fallait quand même pas aller trop vite et il fera antichambre pendant 2 ans. Horizon lointain, l'Amérique est pourtant présente dans la politique et la littérature russe du XIXe siècle. Un des premiers auteurs oppositionnels, subversifs, Alexandre Radichtchev, célèbre avec enthousiasme en 1790 dans l'Ode à la liberté, qui est un chapitre de son voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou, les vertus des libertés civiques dans ce qu'il nomme la République transatlantique. Certaines des réformes imaginées un temps par Alexandre Ier, qui était en contact avec Thomas Jefferson, vont s'inspirer de l'exemple américain qui est déterminant dans la formation des idées politiques des décembristes. C'est alors aussi que les premiers Russes visitent les États-Unis, tel Pavel Svinin, qui découvre en 1813 la perfection des usines et des machines américaines, et notamment celle du navire à vapeur, en haut à droite, de Robert Fulton, le Paragon, que celui tentera en vain de vendre au tsar. Ces premiers moments de la réception russe de l'Amérique mettent en place un dispositif durable. La popularité instantanée des inventeurs comme Franklin et Fulton annonce celle d'Edison, de Graham Bell, de Henry Ford. La connaissance des romans de Harriet Beecher Stowe, dont La case de l'oncle Tom, traduit en 1858, stimulée par l'inévitable parallèle entre l'esclavage sudiste et le servage, annonce le moment où le public russe va se familiariser avec la littérature américaine, notamment celle qui exalte les vertus des pionniers à la conquête des grandes étendues du Nord et de l'Ouest. On connaît la symétrie entre les récits de James Fenimore Cooper et, par exemple, le récit de voyage d'Arseniev, ses rencontres avec le trappeur d'Ersu Sala, figure très proche des héros de James Fenimore Cooper et que Kurosawa a immortalisé dans un très beau film. Du côté des écrivains et des réformateurs politiques, la présence de l'Amérique est constante dans les réflexions sur l'avenir de la Russie, dans la mesure où le Nouveau Monde donne l'image d'un développement politique alternatif à celui des puissances européennes. Ça n'empêche pas certains auteurs d'être extrêmement critiques. C'est le cas de Pouchkine, qui souligne en 1836 les tares de l'esclavage et de la corruption. C'est le cas aussi de Dostoïevski, qui ne manque pas une occasion pour peindre l'Amérique comme une autre Sibérie, en plus matérialiste, dans laquelle les pauvres émigrés russes seraient appelés à se perdre. C'est la vision qu'il prête à Dmitri Karamazov, c'est celle qu'il formule dans « Crime et châtiment ». Et plus concrètement, dans son journal d'un écrivain de 1873, il se montre effrayé par les bâtiments à l'américaine qu'il croit voir dans les rues de Saint-Pétersbourg et notamment les nouveaux hôtels. La perception de l'Amérique et des Américains à ce moment-là reste encore très floue. Elle sera cadrée progressivement par quelques livres de première main. Les slavophiles comme Odoïevski et Khomiakov verront dans l'Amérique un lieu où la corruption de l'Europe se trouve multipliée et ne trouveront par ailleurs aucune vertu à la démocratie. Le libéral Ivan Golovin décrit de son côté sans complaisance la vie quotidienne de la démocratie américaine. Les choses vont changer après 1850. Le premier révolutionnaire russe, c'est un cliché que de le dénommer ainsi, Alexander Herzen, ne souscrira pas à la prophétie double de Tocqueville, publiée en russe en 1860, ne pouvant se résoudre à mettre en parallèle le destin de la Russie et celui de l'Amérique. Mais il partira de Tocqueville lorsqu'il écrit une tragédie intitulée William Penn, en honneur au fondateur de l'État qui porte son nom aujourd'hui, la Pennsylvanie, jugeant à partir d'informations qui lui avaient été communiquées par un autre révolutionnaire en exil à New York, Garibaldi, en jugeant ce pays, l'Amérique, je cite, « plus pratique qu'intelligent, froid et calculateur, pourtant capable de dépasser l'étroitesse bourgeoise et dont il vantera le fédéralisme et la démocratie locale ». Dans ses articles de « Call a Call », la cloche, il imaginera un avenir dans lequel les deux nations coopéreraient selon une loi d'ordre géographique, puisque, écrit-il, « ces deux pays, partis de côtés opposés, traversent de vastes espaces pour atteindre les rives de l'océan Pacifique, cette Méditerranée de l'avenir ». Très prophétique. Mikhail Bakounin, anarchiste que vous voyez à droite, qui passe quelques mois à San Francisco, New York et Boston en 1861, alors qu'il s'est enfui de Sibérie et va vers l'Europe, observe l'industrie, le commerce et la politique américaine et approuve le fédéralisme s'il critique ce qu'il considère comme la banalité du confort matériel et le manque de cœur du pays. À l'occasion de la guerre de sécession, évidemment, épisode fondamental de l'histoire américaine, pratiquement tous les courants de la société russe prennent contre le Sud esclavagiste le parti de l'Union, dont certains émigrés vont rejoindre l'armée. Les conservateurs russes ne se prononceront pas pour autant avec la poursuite des combats et la rébellion polonaise de 1863 pour l'introduction d'un principe démocratique et fédéraliste en Russie. Très favorable, alors personnage du milieu ici, très favorable à Lincoln, les commentaires de l'écrivain révolutionnaire Nikolai Chernychevski dans le Savremiennik, dans le Contemporain, font en revanche de l'abolition de l'esclavage le début d'un combat plus ample pour la justice sociale, susceptible de transformer aussi la Russie. Chernychevski idéalisant au passage assez fortement la condition américaine. Des utopistes russes participent à ce moment-là à la création de communes aux États-Unis. Vladimir Gaïns, autrement dénommé William Frey, Piotr Tchaïkovski en implante au Kansas en 1875, et beaucoup de révolutionnaires qui tentent de prendre à témoin l'opinion publique américaine en voyant des représentants permanents aux États-Unis. Après 1865, cette image héroïque de la Russie en guerre, de l'Amérique en guerre contre l'esclavage laisse la place à une vision plus critique du retour à une vie civile faite d'injustice, de brutalité et d'enrichissement illégitime. Cette déception est présente dans les écrits de Bakounine ou dans les textes du populiste Piotr Lavrov sur ce qu'il appelle la République de la blague, humbug en anglais, et l'Empire du dollar, Dans sa revue Period, Lavrov souligne la valeur de la Constitution américaine, mais il dévoile aussi la violence des rapports de classe. Quant au premier marxiste russe, Georgi Plekhanov, il soulignera que le système démocratique américain ne rend pas pour autant sans objet la révolution prolétarienne. Entre-temps, les Russes lisent avec attention certains réformateurs américains. L'un des plus populaires est Henry George et son ouvrage « Progress and Poverty ». George est un chaud partisan de la propriété collective du sol, adversaire de la propriété privée. Il aura un rôle très important dans toute l'histoire de l'urbanisme, notamment sur le mouvement pour la cité jardin, il aura un impact très fort sur Frank Lloyd Wright aux États-Unis. Ses idées seront un des déterminants du projet de Wright, Brodecker City. Son succès en Russie est tout à fait notable. Ses idées sont combattues par les marxistes comme Plekhanov, qui les considèrent comme tièdement réformistes, mais sont soutenues par Tolstoï et sont pour une part, appartiennent pour une part à la toile de fond de la réforme agraire de Stolypin. 10 ans après la guerre de sécession, les expositions américaines attirent industriels, ingénieurs et techniciens russes. Et ici, les choses commencent à changer avec 2 expositions, 1876 et à Philadelphie, 1893 à Chicago. C'est le moment où le transport maritime perfectionné et à meilleur coût permet aux élites techniques européennes, Russie comprise, d'avoir une expérience de première main de l'Amérique, de découvrir dans ses enceintes, dans l'enceinte de ses manifestations, le monde de l'industrie, celui de l'industrie américaine, et autour du champ clos des expositions, un monde urbain nouveau. En compagnie de plusieurs autres savants russes, le chimiste Dmitri Mendeleïev se rend donc à Philadelphie en 1876 pour visiter l'exposition qui célèbre le centenaire de l'indépendance et y enquêter aussi, c'est l'essentiel, c'est pour ça qu'il a été sponsorisé, pour enquêter sur l'industrie pétrolière, notamment en Pennsylvanie. À l'intérieur du Crystal Palace de Philadelphie, bien plus vaste que celui de Londres en 1851, il découvre, comme les autres voyageurs russes, toute une série de machines extraordinaires. Le frein Westinghouse, très important pour le développement des chemins de fer, Westinghouse créera une entreprise en Russie, le téléphone de Graham Bell, les machines à coudre Singer, et aussi des nouveautés extraordinaires comme la machine à écrire. Et il enregistrera ces innovations et dans le même temps restera sceptique. Dans un article publié à son retour, Mendeleïev note, voilà la publication consacré à l'industrie pétrolière américaine comparée à celle de la Russie qu'il réalise en 1877. Il écrit « J'ai eu l'impression générale à l'exposition et dans les raffineries de pétrole que les Américains ont un attachement particulier pour les processus mécaniques, qu'ils les utilisent partout, parfois même là où il serait plus avantageux de s'en passer. » Un autre Mendeleïev donc s'intéresse fortement à la Russie et est sans doute un des premiers à inviter s'intéresse beaucoup à l'Amérique et est un des premiers à inviter les Russes à s'efforcer, je cite, de rattraper les Américains, un slogan que les bolcheviks reprendront à leur tour. Pendant plusieurs décennies, il continuera à observer les progrès de l'enseignement technique et de l'industrie aux États-Unis et à en tirer des prescriptions pour le système russe. Un de ses compagnons de voyage est l'ingénieur Vladimir Chukhov, formé à l'École technique supérieure de Moscou entre 1870 et 1876. Il est donc tout jeune. Il visite l'exposition. Il y rencontre surtout l'ingénieur Alexander Barry, vous voyez une de ses publicités ici, qui le recrute dans son bureau de construction industrielle. L'Amérique va jouer un rôle très important et difficile à documenter par manque d'archives. Le fonds Chukhov du Musée polytechnique de Moscou et les fonds familiaux ne sont pas très éloquents sur son séjour américain et ne conservent que quelques fragments. Mais il est évident que sa découverte des grandes constructions métalliques américaines et des grands ouvrages va le conduire à élaborer lui-même des structures parmi les plus remarquables de toute cette période. Et je ne résiste pas à la tentation de vous montrer, de vous rappeler quelles sont les grandes contributions de Shukhov à la suite de ce voyage aux États-Unis. Les coupoles métalliques des galeries commerciales supérieures, qui ont gardé aujourd'hui leur nom soviétique de GUM à Moscou. Les constructions tout à fait remarquables de l'exposition de Nijni Novgorod en 1896, qui est la première grande exposition russe et qui dérive largement des observations faites aux États-Unis et notamment à Chicago. Shukhov imagine un système de construction révolutionnaire qui utilise des hyperboloïdes de révolution, un petit peu de construction. Ces structures ont l'infini avantage de pouvoir être réalisées à partir d'éléments rectilignes, à partir de barres de fer ou d'acier, qui peuvent donc être transportées sur les wagons des chemins de fer, permettant de construire ces châteaux d'eau ou des pylônes électriques dans tous les coins de l'Empire. Ici, un panorama à la Becher de certains de ces châteaux d'eau, dont beaucoup sont encore debout. Et Shukhov réussit, c'est un des rares effets réciproques, mais tellement important qu'il est impossible de le passer sous silence, Shukhov réussit à vendre ses idées, ses brevets aux Américains, puisqu'il équipe les cuirassés de l'US Navy avec des tours hyperboloïdes de son invention. C'est un des très rares exemples. L'emprunt inverse autorisé ou en général non autorisé est plutôt la règle. C'est un des rares cas d'exportation de techniques avancées russes aux États-Unis dans cette période. On sait aussi que Shukhov sera le génial constructeur de l'émetteur de radio du Comintern à Moscou, cette tour de 160 mètres de haut qui a failli être rasée l'année dernière. Le bureau d'études de Bari, dont j'ai parlé, sera maintenu dans la période soviétique, deviendra un institut de projet dénommé le Stalmost, et Shukhov y restera actif jusqu'à la fin des années 30. Il faut noter que l'exposition de Philadelphie, dont je viens de parler, est aussi présentée au public des architectes dans les pages de la revue Zouachi, la revue de la Société des architectes de Saint-Pétersbourg, qui commence ainsi une chronique régulière extrêmement passionnante sur la construction aux États-Unis. Alors, 15 ans plus tard, les Russes reviennent plus nombreux pour visiter l'exposition colombienne de Chicago en 1893. La manifestation est extrêmement importante aussi pour beaucoup d'architectes d'Europe occidentale, pour des Allemands, pour des Français comme Jacques Herman, qui vont en tirer des observations extrêmement pertinentes. Et pour certains journalistes ou critiques, je pense à un ouvrage à succès, un best-seller français de la fin du XIXe siècle, le livre de Paul Bourget, Outre-mer, qui est un récit de voyage en Amérique, qui va être un des premiers livres dans lesquels le gratte-ciel, cette invention de Chicago, qui est à l'époque encore dénommée parfois presse-nuage, ou fer à repasser les nuages, le gratte-ciel est déjà discuté par Bourget dans son roman. L'exposition se déroule dans une ville qui est, vous voyez l'exposition à gauche sur cette image, elle se déroule dans le sud d'une ville extrêmement étendue, où la diversité raciale et culturelle du monde est mise en scène dans une section qui s'appelle le Midway Pleasance, que l'on voit au fond de cette image, et où la White City, la ville blanche construite par Daniel Burnham avec des bâtiments beaux-arts en stuc tout à fait triomphaliste, s'oppose à la ville noire, la ville des abattoirs, la ville industrielle que certains observateurs découvrent malgré tout. Alors les Russes sont nombreux et publient énormément cette fois-ci à leur retour de Chicago. Le fondateur de la Société pour la propagation de la connaissance technique, un nommé Shuprov, écrit « L'Amérique, la foire de Chicago en particulier, est si importante pour nous en tant que modèle dans de nombreuses sphères de la vie économique que le gouvernement ne devrait pas épargner les fonds pour y envoyer des spécialistes. Parmi ces nombreux spécialistes à la recherche de procédés pratiques figure le technologue d'Odessa Nikolai Mielnikov, qui propose lui aussi une vision stimulante de l'exposition de Chicago. Il insiste dans sa compilation sur l'intérêt de l'exposition dans le domaine de l'industrie sur l'utilité de faire des manifestations du même ordre. Et c'est ce qui conduira à Nijni Novgorod en 1896. L'écrivain radical Vladimir Korolenko présente quant à lui les scènes qu'il découvre derrière le spectacle de l'exposition, sans aucune complaisance. Ces scènes, ce sont notamment, mais on ne les voit pas sur scène, ils sont en dehors de cette vue de la ville, ce sont notamment Packing Town, les abattoirs de Chicago, qui pour Korolenko deviennent une métaphore du fonctionnement du capitalisme américain. Son texte s'appelle Fabrica Smerti, la fabrique de la mort. Et vous savez que le livre d'Upton Sinclair, qui sera La jungle, décrivant les conditions de vie dans les abattoirs de Chicago et autour, sera un des déclencheurs des politiques de réforme de Theodore Roosevelt au début du XXe siècle. Bien. Alors, d'autres auteurs s'intéressent à l'Amérique de manière tout à fait précise et didactique. Ici, un livre d'un publiciste qui écrit sous le pseudonyme de Tverskoy, mais qui s'appelle en fait Piotr Dementiev, qui consacre à l'exposition une partie des essais qu'il publie en 1895, dans lesquels il décrit la croissance des populations, leur extrême variété. Il revient à nouveau sur Chicago. Il observe l'étendue encore parfois disponible de la ville, notant que Chicago se distingue peu de la majorité des villes de l'Ouest américain, mais il s'intéresse sur les contradictions qui ne manqueront pas de se développer entre la densité des constructions et la capacité des rues. Dementiev écrit « Le nombre d'étages va s'accroître dans l'avenir en rapport avec l'augmentation du prix du terrain, et le moment est proche où l'état des rues freinera le mouvement humain et où les collectivités américaines devront décider du difficile problème de savoir quoi faire avec elles et de tenter de concilier la poussée des maisons vers le haut avec l'immobilisme de l'espace des rues. » De leur côté, les architectes sont invités à réfléchir non seulement sur les constructions de l'exposition, mais sur la ville elle-même. Ce pays dont il faut beaucoup apprendre et qui va si vite en avant, c'est ce que dit Ozierov, c'est le titre d'un de ses livres, « Acevo America idiot tak buistro v period »,« Pourquoi l'Amérique va-t-elle si vite en avant ?» Eh bien, Ozierov organise, je dirais, la réflexion des architectes et celle des réformateurs en réformant, je cite, « l'injection d'une bonne dose d'américanisme dans la vie économique et l'enseignement russe afin de sortir le pays de sa torpeur et de sa routine ». Après le décret, célèbre décret du 19 février 1861 abolissant le servage, une nouvelle phase s'ouvre dans l'histoire de l'économie et de la société russe, accompagnée par de nouveaux récits de voyage et des analyses, je viens d'en citer beaucoup, concluant à la nécessité d'une observation, sinon d'une imitation de l'Amérique dans le domaine de l'organisation industrielle. La construction des grandes infrastructures russes fait appel au savoir américain que le ministre des Finances Witte souhaite voir balancer, équilibrer l'influence européenne. C'est vrai dans le domaine crucial des chemins de fer. Le ministre des Voies de communication, Mikhail Khilkov, qui a passé plusieurs années à travailler comme ouvrier aux États-Unis, avant de définir de manière extrêmement innovante et rigoureuse le développement et d'encadrer le développement des chemins de fer russes, va continuellement évoquer l'exemple américain, bien que le développement du capitalisme en Russie reste largement fondé sur le commerce avec l'Allemagne. En 1914, l'Allemagne fournit encore la moitié des importations russes. En dépit donc des difficultés et de cette domination de l'Allemagne, le rôle des sociétés scientifiques et techniques est très important dans cette phase d'assimilation de l'expérience américaine. Et les réseaux d'ingénieurs formés à la fin du siècle, réseaux centrés sur l'Amérique ou réseaux centrés sur l'Allemagne, comme celui, par exemple, très connu des électriciens qui vont contribuer au plan d'électrification, vont perdurer dans la période soviétique. Dans les revues d'architecture. Alors voilà d'autres remarques. Oui, je parlais de Tverskoï et de ses essais sur la Russie de l'Amérique du Nord. Dans les pages des publications d'architecture, des analyses très nombreuses sont publiées sur la construction, l'hygiène urbaine et l'habitation aux États-Unis, essentiellement dans Zolci et dans son supplément qui s'appelle « La semaine des constructeurs ». Ici, c'est un article tardif. Je n'ai pas pu numériser tous les articles les plus importants de Zolci. Ici, c'est un article sur la construction des immeubles américains qui vous montre notamment cette chose étonnante de la façade d'un immeuble. Ce pointeur marche peut-être, je ne sais pas, non, il n'est pas en marché. Vous voyez donc sur la photo en haut à droite cette façade d'immeuble dont certains éléments sont construits alors que les éléments inférieurs ne le sont pas. Donc c'est le système du mur suspendu, du mur rideau qui est discuté par les ingénieurs et les architectes soviétiques. Le champ de ces articles est très vaste. Si les cataclysmes, et notamment les incendies à Baltimore, à San Francisco, et les règlements de sécurité qu'ils inspirent sont évoqués avec une grande fréquence, la construction métallique des ouvrages d'art et des édifices publics, les transformations de l'habitation, l'introduction de l'électricité, à nouveau, toujours l'électricité à l'échelle de la maison et de la ville, sont documentées avec régularité et précision. Ici, une remarque, très souvent, ces analyses sont reprises des revues allemandes, Deutsche Bauzeitung ou Zentralblatt der Bauverwaltung. Et c'est un phénomène récurrent que l'on rencontrera à nouveau dans les années 20 très fortement, que de voir les Russes observer l'Amérique au travers du prisme, au travers des lunettes allemandes, du prisme parfois déformant des Allemands. Parmi les analyses de première main, la plus importante est sans doute celle que je ne vous montre pas directement, celle que j'évoque ici, d'Alexander Dmitriev, architecte de Saint-Pétersbourg, puis de Petrograd, puis de Leningrad, jusqu'aux années 50. Dmitriev publiera avec ses propres dessins dans Zolci les notations de son voyage de 1905. Ici, un édifice qu'il construira par la suite. Les questions de la réforme urbaine sont aussi évoquées. Et beaucoup, après 1905 notamment, beaucoup des réformateurs urbains s'intéresseront à la vie municipale américaine au moment où la Russie se préoccupe de créer de toutes pièces des appareils municipaux et des conseils en partie élus. Donc l'observation porte sur les édifices, mais aussi sur les fragments de ville et sur l'urbanisme. Il y a quelques très rares exemples de transferts ou de réponses littéral de l'architecture russe à la présence américaine. Le plus remarquable est un immeuble que tous les visiteurs de Saint-Pétersbourg connaissent, le Singer Building, qui est construit sur la perspective Nevsky en 1904 par Pavel Suzor, en liaison avec Ernest Flagg, qui avait construit le gratte-ciel de Singer à New York. Le gratte-ciel de Singer à New York sera pendant un certain temps le plus gros, le plus haut bâtiment de New York et du monde. Il en est presque ainsi pour celui de Pétersbourg, qui triche avec la règle voulant que la hauteur des bâtiments de la ville ne dépasse pas celle de la corniche du palais d'hiver, avec ce petit globe qui est perché au sommet de sa coupole et qui dépasse. Mais il n'était pas dessiné dans le projet initial qui était d'ailleurs un projet de Flagg lui-même et que vous voyez à droite. C'est un des premiers projets d'un architecte américain pour une ville russe, un projet qui sera en définitive abandonné et remplacé par un bâtiment beaucoup plus hardi comme celui que vous voyez à gauche. Immeuble donc tout à fait élevé, immeuble important par l'utilisation du métal et ses systèmes mécaniques dans son ensemble. Dans le domaine de l'urbanisme, j'ai parlé des partisans de la réforme urbaine, les ingénieurs et les auteurs des projets de transport observent aussi les grandes villes américaines, Chicago et New York. Ici, dès 1902, on voit apparaître le projet d'un métro aérien, d'un elevated railway à Moscou. C'est un ingénieur qui s'appelle Nikolai Balinski, qui ne réussira pas pour ce projet privé à trouver des fonds. L'extension de Moscou après 1861 est jugée américaine par les contemporains. Et donc, ce ne sont pas que les systèmes mécaniques que l'on copie ou que l'on tente d'importer, mais aussi une vision, une projection quant à l'avenir de la capitale commerciale et non politique du pays. Ainsi, voit-on par exemple en 1912 un auteur inconnu publier ses cartes postales montrant la Moscou de l'avenir. Ici, vous voyez donc ces monorails, ces aéroplanes, ces automobiles courant dans tous les sens. Et vous voyez en bas à gauche une représentation du théâtre Bolchoï. Donc on est bien à Moscou, mais ce théâtre est ridiculisé en quelque sorte par ces grands édifices. Et ici, nous voyons encore deux de ces cartes postales et leurs référents, qui sont les gravures publiées à New York dans les King's Views of New York sur des villes vertigineuses qui croîtraient aussi bien vers le ciel avec ses édifices à étages multiples que dans les profondeurs du sol. Beaucoup de ces représentations qui circulent dans les revues d'Europe occidentale sont reprises par les illustrés russes. Plus sérieusement, les réformateurs qui s'attachent concrètement à maîtriser la croissance des villes et à trouver des alternatives, évidemment, font leur les grands projets américains. Le premier manuel d'urbanisme russe est publié en 1912 par Vladimir Semyonov, dont je reparlerai, car il sera l'inspirateur du plan de 1935 pour Moscou. Semyonov s'intéresse aux stratégies de réforme de la ville américaine, comme le Park Movement. C'est ce que vous voyez à gauche, avec le système des parcs de Boston, déployé par Frederick Law Olmsted, l'auteur de Central Park, l'idée du fameux collier d'émeraude, de ce chapelet de parcs linéaires autour de la ville, de parcs et de parkways. Semyonov le connaît fort bien. Et à droite, vous voyez, sur une autre planche de son livre, le plan d'aménagement du Mall de Washington, issu des travaux de la commission Macmillan au début du siècle. Et donc, on voit bien ici combien la ville américaine, à un moment où les villes russes ne connaissent pas véritablement de stratégie d'expansion maîtrisée, il n'y a pas de plan d'extension, et encore moins de plan de zonage à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, la ville américaine reste un horizon, qui est aussi un horizon, je dirais, presque touristique. On le voit aussi dans les publications destinées à toutes les couches de la société, qui présente les merveilles de la vie américaine. Ici, la traduction d'un ouvrage extrêmement populaire en Europe occidentale par un polygraphe, par une sorte de géographe polygraphe du nom de Frank Carpenter. D'autres villes plus lointaines commencent à apparaître aussi dans ces récits. Ainsi, Tverskoï, dont j'ai parlé déjà, est un des premiers à rendre compte de la croissance tout à fait stupéfiante de Los Angeles, et beaucoup de ces auteurs passent en revue le détail de la vie quotidienne dans les grandes villes. Un des thèmes récurrents, c'est par exemple la question de l'éducation. Ogorodnikov décrit avec lyrisme les vertus de l'éducation de masse, du confort et de la mécanisation dans la vie municipale. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que en parallèle à la montée de l'américanisme dans le champ de la technique, dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme, des représentations construites par des groupes différents suivent des chemins parallèles. Certains de ces observateurs donnent des visions très critiques des États-Unis. C'est le cas de Korolenko, dont j'ai parlé déjà, je crois, qui avait fini par déclarer qu'il préférait sa terre d'exil de Yakoutie à un pays, les États-Unis, où l'exploitation, la corruption et le cynisme commercial régnaient. Inspiré par le livre d'Edward Bellamy, Looking Backward, une utopie qui sera aussi une des sources d'inspiration de Frank Lloyd Wright, dont j'ai déjà parlé, livre dont le succès en Russie est considérable dès sa publication en feuilleton en 1889. Beaucoup de Russes émigrent, évidemment beaucoup de Juifs qui fuient la Russie, mais beaucoup de Russes aussi émigrent aux États-Unis à la recherche d'une Amérique terre d'utopie et d'expérience communautaire. On voit ainsi beaucoup d'auteurs mettre en avant dans leurs ouvrages, de manière totalement propagandiste, la promotion sociale, les succès politiques de ces travailleurs russes installés aux États-Unis. En revanche, d'autres voix se font entendre. Tolstoï, initialement favorable à l'Amérique, dénonce son matérialisme à partir du début du XXe siècle, tandis que les observateurs conservateurs redoutent ce qu'ils appellent le nouveau messianisme du pays des dollars. On croirait entendre Poutine. C'est du côté, enfin, des sciences politiques qu'apparaissent les enquêtes les plus solides, qu'il s'agisse de celles de Maxime Kovalevski et surtout de Moïse Ostrogorski, dont l'analyse critique sur la démocratie et les partis politiques, qui est publiée pour la première fois à Paris en 1903, dont l'analyse sera connue en Russie bien avant sa traduction en Russie dans les années 20, où elle sera alors considérée, je cite, comme une mise à nu implacable de la démocratie bourgeoise. Alors, les écrivains, et notamment deux d'entre eux. À l'exception du symboliste Constantin Balmont, peu d'écrivains véritables, écrivains de profession, ce sont pour l'essentiel des essayistes, je l'ai dit, des journalistes, des réformateurs, des agitateurs, peu d'écrivains véritables se rendent aux États-Unis au début du siècle. Les écrits de Maxime Gorki, publiés après son voyage de 1906, occupent une place tout à fait particulière dans cette production, exprimant assez bien les réticences de Tolstoï. Il est invité par le millionnaire socialiste Gaylord Wilshire, Wilshire dont l'empreinte sera très forte sur le développement urbain de Los Angeles, où un des principaux boulevards porte son nom. Invité par lui, Gorki passe 6 mois en Amérique, où il cherche à recueillir des fonds pour les prisonniers politiques russes après la révolution de 1905. Sa réaction sera extraordinairement négative et en grande partie sans doute, enfin en partie, accentué par la campagne de la presse conservatrice et son expulsion de l'hôtel où il résidait avec sa compagne, l'actrice Maria Andreevna. Donc il fait l'objet d'une espèce de chasse au rouge. Il découvre donc tout ce qui sépare la vision quelque peu idéalisée de l'Amérique diffusée en Russie et une réalité plus prosaïque. Dans son livre publié en Allemagne, il ne le sera pas en Russie avant 1917 et il le sera ensuite maintes et maintes fois, notamment dans la période stalinienne, avec des couvertures de plus en plus effrayantes, je vous en montrerai quelques-unes. Dans ce livre, Gorki met en cause l'idée fréquente dans les récits russes selon laquelle le capitalisme du Nouveau Monde serait fondamentalement différent de l'ancien. Il retrouve dans sa critique anti-urbaine contre New York le thème de la bestialité, de la monstruosité, exploité par exemple par Emile Verheeren dans « Les villes tentaculaires ». Ici, je cite quelques passages de son chapitre de son récit de voyage en Amérique, « La ville du diable jaune », passage dans lequel il condamne cette ville, New York, Manhattan, et je cite Gorki, « C'est une ville, c'est New York, des immeubles de 20 étages, gratte-ciel sombre et muet se dressent sur la rive, carrés, dépourvus de tout désir de beauté, les bâtiments lourds et hautains se tiennent, sombres et lugubres. Dans leur hauteur, un orgueil méprisant, leur laideur se sent dans chaque maison. À cette distance, la ville semble être une vaste mâchoire avec des dents noires inégales. Elle exhale des nuages de fumée noire dans le ciel et ronfle comme un glouton souffrant de son obésité. Entrer dans la ville est comme pénétrer un estomac de pierre et de fer, un estomac qui a avalé des millions de gens et les consume et les digère. Autre métal, l'acier, qui est pour certains l'expression d'une modernité exaltante, est pour Gorki celle d'une menace. Partout, écrit-il, en l'air, sous le sol, sur les côtés, le fer résonne, exultant de sa victoire. Éveillé à la vie et animé par le pouvoir de l'or, il étend son filet autour de l'homme, l'étrangle, suce son sang et son cerveau, dévore ses muscles et ses nerfs, et croit, s'appuyant sur une pierre sans voix, étirant les maillons de sa chaîne toujours plus loin. Dans un second texte intitulé « Mob, la foule », Gorki évoque les foules anonymes, et dans un autre texte encore intitulé « Le royaume de l'ennui », il est révulsé par le spectacle des masses fréquentant les attractions du Luna Park à Coney Island. Il se plaît à imaginer un incendie salvateur réduisant en cendres ce royaume de l'ennui. Une des plus belles analyses du texte de Gorki, c'est évidemment celle de Rem Koolhaas en 1978 dans son New York Délire, où il a vu avec raison, une sorte de prophétie dans le propos de Gorki, puisque le Luna Park sera incendié. Gorki écrit « L'âme est saisie par un désir brûlant d'une flamme vivante, rouge et éclatante, qui libérerait les gens de la servitude de cet ennemi barbré qui assourdit et aveugle. On souhaiterait mettre le feu à tout ce décor et danser de joie, crier et chanter dans le jeu impétueux des langues écarlates d'une flamme vivante, se griser dans la fête voluptueuse que serait la destruction de la magnificence inerte de la pauvreté spirituelle. » Très fort. La ville est aussi, dans cette période, New York, la scène urbaine américaine est très familière pour les lecteurs russes. Un des grands registres de la production populaire, ce sont par exemple les traductions des aventures du détective Nat Pinkerton. Ici, un fascicule qui nous montre précisément les hommes de Pinkerton escaladant un gratte-ciel. On parlera dans cette période d'une véritable épidémie de Pinkertonite, la Pinkertovshchina, et à tel point que l'ombre portée de ce phénomène se prolongera sur la période bolchevique. Alors, les nouveaux courants artistiques se mettent aussi, dans cette période, en quête de l'Amérique, ou à tout le moins de ses habitants. Ossip Mandelstam écrit un poème intitulé « L'Américaine »,« Americanka ». Et le fer modelé par l'or que Gorki rejette est par contre célébré avec intensité par le futuriste, par le symboliste Alexander Bloch dans un poème qu'il écrit en 1913, Novaya America, la Nouvelle Amérique. Bloch voit alors une étoile providentielle et américaine éclairer la vision d'un nouveau monde, d'une Russie arrachée à son sommeil séculaire. Et ce qu'il a à l'esprit, c'est bien, ce sont les paysages industriels du Donbass, dans lesquels la culture industrielle américaine devient la source d'une sorte de subversion de la civilisation statique russe. Bloch écrit, charbon, je cite, « Charbon noir, messie souterrain, charbon noir, là est le roi et là le fiancé, mais il n'est pas effrayant, fiancé Russie, ton propre champ tressé de pierre, et gémit le charbon, et blanchit le sel, et hurle le minerai, au-dessus du vide de la steppe, pour moi, c'est allumer l'étoile de la Nouvelle-Amérique. » Quand on sait combien, ce que l'on verra dans quelques semaines, combien la contribution de Detroit et de l'industrie américaine à la modernisation de la Russie entre la fin des années 20 et le milieu des années 30 sera décisif en termes, je dirais, de sidérurgie, d'industrie chimique et surtout d'industrie militaire. On conçoit combien Bloch avait eu une intuition juste. Toutes les variantes écartées dont j'ai parlé d'une Amérique ou des variantes critiquées d'une Amérique régénératrice, cette idée qui avait été rejetée par Gorki, Bloch l'a fait sienne, et n'a pas les réticences de Gorki envers l'urbanisation. Il est amusant d'ailleurs que Bloch ait lu de très près les textes que Mendeleïev avait rédigés sur les villes américaines. Dans ses journaux intimes, Bloch parle de l'américanisme et dit qu'il s'agit d'une démarche pour résoudre les questions pratiques de la vie qui appellent les grandes échelles et une large envergure, et que c'est cette force principale de la culture américaine, son terme, qui va permettre la résurrection d'une Russie mortellement endormie dans sa civilisation, dichotomie célèbre entre culture et civilisation, d'une Russie endormie dans sa civilisation archaïque et asiatique. L'attitude de Bloch déterminera, par exemple, celle du seul futuriste qui parviendra à traverser l'Atlantique et à regagner Moscou, Mayakovsky, dont j'aurai l'occasion de parler. Il est d'ailleurs assez intéressant que les lieux où l'avant-garde présente ses spectacles les plus déconcertants aient des connotations américaines. L'opéra de Malevitch et Matyushin, La victoire sur le soleil, et la pièce Vladimir Maïkovski, Tragédie, sont présentés en 1913 dans un théâtre de Saint-Pétersbourg à l'enseigne du Luna Park, que vous voyez ici. Il y en avait un aussi à Paris, à la Porte Maillot, que Raymond Queneau a immortalisé. Alors, je voudrais terminer maintenant en insistant sur un autre aspect tout à fait parallèle à cette vision d'une Russie industrielle qui aurait l'Amérique comme horizon, à cette vision de bloc, se juxtapose progressivement une pratique concrète issue de l'industrie américaine, c'est ce qu'on appellera l'organisation scientifique du travail, dont le principal promoteur sera Frederick Winslow Taylor. En effet, le développement du capitalisme russe s'accompagne d'une grande ouverture aux nouvelles méthodes de production et de gestion développées en Europe occidentale et aux États-Unis. Dès 1909, des traductions très rapides familiarisent sans délai les ingénieurs et les industriels avec les recherches de Taylor. Donc Taylor est traduit par un professeur de l'Académie d'artillerie qui s'appelle Pankin, par un ingénieur des mines du nom de Levenstern, qui commente les principaux ouvrages du pionnier du scientific management et aussi les expériences. On verra comment les Tayloriens sont extrêmement présents sur la scène russe dans les années 20, mais ils le sont déjà avant 1914. Je pense à Gilbert, qui est un des partenaires de Taylor, je pense à Henry Gantt. Un très grand nombre de commentaires et de comptes rendus d'expérience accompagnent la diffusion de ces textes originaux américains et qui sont pour autant critiqués par les bolcheviks. Et je voudrais, de ce point de vue-là, évoquer les positions du leader, donc de la fraction bolchevique du Parti ouvrier social-démocrate russe. Le développement du taylorisme, en effet, ne passe pas inaperçu chez les sociodémocrates. Alexandre Bogdanov, plus tard le fondateur du Proletkult, commente dès 1913 les effets du taylorisme, une espèce d'énorme appétit pour l'innovation américaine de tous les dirigeants révolutionnaires, comme d'ailleurs des réformateurs bourgeois dont j'ai parlé, réformateurs dits bourgeois. Et Lénine analyse dans un article de 1913 dans la Pravda ce qu'il appelle, slogan célèbre, un système scientifique pour pressurer l'ouvrier, scientifique entre guillemets. Mais à peine un an plus tard, dans le même journal, Lénine publie une autre analyse dans laquelle il commence à distinguer ce qui relève du perfectionnement de l'exploitation capitaliste, donc le taylorisme au service du profit, des expériences qui l'autorisent à dire, je cite, « Le système Taylor prépare le temps où le prolétariat prendra en main toute la production sociale. » Donc, il voit la promesse d'une forme de travail plus scientifique, plus productive et donc plus conquérante. Comme l'intelligentsia technique russe, comme les réformateurs urbains dont j'ai parlé, comme les architectes, les bolcheviks commencent en fait à comprendre que même si c'est l'Allemagne qui est leur source d'inspiration politique et technique pour le moment, c'est à l'Amérique qu'il va falloir s'intéresser. Et donc nous verrons dans le prochain cours comment le taylorisme et le bolchevisme se rencontreront dans le cadre de l'américanisme des lendemains de la Révolution. Merci.